On a encore une Bible nouvelle version de Genève qui traîne par là.
Oui. Oui. Ah oui, ok.
Le psaume 84, je vais juste prendre un petit moment pour vous rappeler où nous en sommes. Et pour notre frère qui vient pour la première fois pour le mettre dans le bain. Rappelez-vous que ce psaume nous parle du bonheur. Nous le savons parce que le psaume est structuré selon trois répétitions. Trois fois dans le psaume, le psalmiste dit « heureux ceux qui » ou « heureux celui qui ». Et chacun de ces « heureux » commence ou termine une section nouvelle. Maintenant, regardez bien. Le premier se trouve dans le verset 5. « Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. » Nous avons dit qu'il s'agit des Lévites, des fils de Corée qui ont écrit ce psaume et qui sont empêchés d'arriver à Jérusalem, à la maison de l'Éternel. Ils languissent après la présence, cette présence spéciale de l'Assemblée dans le temple où Dieu se manifeste particulièrement. Donc nous lisons dans les premiers versets ceci, donc au verset 2, « Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées, parlons du temple. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore ou peut-être toujours. » Donc, nous avons dit la semaine passée qu'il parle d'abord de cet état heureux, de ce bonheur qui vient de la destination. Il veut arriver quelque part parce qu'il sait que c'est l'endroit du suprême bonheur. Donc l'endroit où Dieu réside, où il nous accueille chez lui. Et nous avons dit que dans ces temps du Nouveau Testament, ça correspond à deux accomplissements. Nous n'avons plus de temple à Jérusalem, mais le temple de Jérusalem nous parle, selon le Nouveau Testament, de deux choses. De paradis, où nous serons dans la présence manifeste de Dieu, et la Bible dit dans le livre d'Apocalypse que le monde entier sera un temple. Parce que le monde entier sera l'endroit de la présence manifeste de Dieu. Donc nous aussi, nous languissons après l'arrivée à cette destination-là. Et de là vient une bonne partie de notre bonheur de chrétien. Nous sommes heureux de penser que nous allons arriver devant le Dieu vivant. Et cela nous garde dans un espoir palpitant pendant notre chemin. Mais il y a une deuxième source de bonheur pour le chrétien, ce n'est pas la destination, mais c'est le voyage lui-même pour y arriver. Et cela, nous voyons donc dans la deuxième section du psaume qui parle de ces Lévites qui vont, ou du peuple de Dieu qui chemine vers le temple. Donc nous lisons à partir du verset 6, et ça commence avec le deuxième heureux. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, et nous voyons que tout est dans le langage de cheminement, de pèlerinage ici, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, c'est-à-dire la marche vers le temple de Jérusalem, vers les festins d'adoration. Et il se présente devant Dieu à Sion. Ça, c'est la deuxième section et nous allons parler de ça tout à l'heure. La joie de la marche ou du voyage vers Dieu. La troisième section commence au verset 9 et se termine par un heureux dans la dernière phrase du psaume. Et cette partie parle non pas de la destination où nous allons en tant que croyants, ni du cheminement pour y arriver, mais du moyen par lequel nous faisons ce chemin et nous arrivons à cette destination, c'est-à-dire la réalité de la foi, de la dépendance en Dieu. Regardez bien. Maintenant, il arrête de parler de la destination et de la marche et il commence à prier. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton roi. C'est-à-dire, regarde la face du roi d'Israël, qui est le bouclier du peuple. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux, troisième source de bonheur, heureux l'homme qui se confie en toi. Et toute cette partie qui commence avec une prière et qui parle de Dieu comme un bouclier qui donne grâce et qui donne gloire est une section qui nous parle du bonheur dans la vie de foi. D'accord? Voilà, ok, donc nous allons commencer ce matin. C'est un paradoxe, et je parle en introduction, et ensuite je vais vous donner trois points et une conclusion. C'est un peu paradoxal pour moi, je ne sais pas pour vous, mais notre joie suprême se trouve dans une destination dont on est loin. Mais pourtant, ce psaume nous dit que le chrétien a un pèlerinage plein de joie. Il languit, il n'est pas là où il veut être, il n'a pas atteint sa joie, mais il est joyeux. Ce n'est pas comme ceux qui font le chemin de Saint-Jacques de Compostelle aujourd'hui, parce que pour eux, pour la plupart, la destination n'a aucune importance. C'est juste le chemin qui est vraiment formidable, marcher. Certains ne s'occupent même pas d'arriver au bout du chemin, c'est loin, en Espagne, n'est-ce pas? Donc, le chrétien n'est pas comme ça. Pour lui, ce n'est pas simplement la marche qui est une joie, mais ce n'est pas non plus comme la fille qui est célibataire et qui languit après un mari et pour qui la vie célibataire est devenue rien qu'une corvée, rien qu'une tribulation. Il n'y a aucune joie là où elle est, là où elle chemine dans sa vie, dans cet état célibataire. Il y a juste une joie à être mariée un jour et jusqu'à ce jour, elle est malheureuse. La vie chrétienne n'est pas comme ça non plus. La vie chrétienne a de la joie dans la destination et de la joie dans le chemin. Et c'est cette joie dans le chemin que nous voulons comprendre parce que il est essentiel pour nous en tant que chrétiens que nous ayons cette délice et ce bonheur de la marche chrétienne que nous comprenions. Je me souviens qu'en tant que catholique, quand j'étais jeune, j'avais fortement dans ma tête que la vie religieuse, j'étais obligé d'aller à la messe, mais ce n'était pas moi. Et j'avais cette idée qui était vraiment un peu l'idée maîtresse dans ma tête vis-à-vis de la foi chrétienne, c'était que si tu deviens vraiment religieux, tu es obligé d'être malheureux sur terre pour être heureux au ciel. Voilà, c'était ma conception. Mais ce psaume nous dit le contraire. Même s'il y a des tribulations, même si nous devons porter une croix sur la terre, et c'est normal, nous voulons suivre notre Seigneur, il y a des solides et certaines joies pendant le voyage. Et c'est ce que nous voulons voir. Ok, bon, on commence avec le premier point. Le premier point, c'est que dans la vie chrétienne, il y a une force suffisante. Le deuxième point va être qu'il y a un plaisir attirant. Et le troisième point va être, regardez tes notes, un fruit signifiant. Donc, nous commençons avec une force suffisante. Nous lisons dans le verset 6, « Heureux ceux qui placent en toi leur force », ou d'autres versions disent « ceux qui trouvent en toi, ceux qui placent en toi leur appui », ou d'autres versions disent « ceux qui trouvent en toi leur force ». Et nous trouvons cette idée dans le verset 8 aussi, « leur force augmente pendant la marche ». Alors, L'auteur inspiré veut que nous sachions qu'il y a une autre sorte de bonheur et que nous devons comprendre ça pour marcher bien avec le Seigneur et glorifier son nom. Ce bonheur, c'est dans le fait que nous avons, pour notre appel chrétien, une force suffisante en Christ. Maintenant, avez-vous jamais remarqué que c'est absolument nécessaire pour quelqu'un d'avoir la capacité nécessaire afin d'avoir de la joie dans une entreprise? Voilà le bonhomme qui est mis dans un poste pour lequel il n'a pas la force, il n'a pas la compétence, il n'a pas les capacités. Qu'est-ce qui lui arrive? Il devient misérable dans ce poste. On appelle ça le principe de Peter, le Peter Principle. C'est-à-dire que dans le monde des affaires, on a l'habitude de monter l'échelle, d'avoir des promotions, jusqu'à ce qu'on nous met un cran au-dessus de nos vraies capacités. Et là, on commence à ne pas faire du bon boulot. Mais, qu'est-ce qui arrive à la personne qui n'a pas la force pour faire ce qu'il est appelé à faire? Bien, parfois, les gens font semblant de faire le travail et de pouvoir le faire. Parfois, ils trichent. Parfois, ils s'inquiètent. Et souvent, ils craignent. Et toujours, ils sont misérables. Parce que la force ne correspond pas à la marche qu'ils doivent faire. Et vous aussi, si vous tombez dans le piège dans lequel le diable veut vous mettre, il veut nous convaincre que nous n'avons pas la force pour vivre une vie chrétienne réelle et conséquente. Et on sera misérable. Donc, une chose est sûre pour une personne dans ce cas, je ne sais pas s'il va tricher, faire semblant ou quoi que ce soit, mais une chose est sûre, qu'il ne va pas s'engager vraiment et se réjouir dans ce qu'il fait, à cause d'une force insuffisante. Il est intéressant que l'épître de joie dans le Nouveau Testament, qui est laquelle? L'épître qui a pour un de ses grands thèmes la joie, c'est les Philippiens. Et c'est dans les Philippiens que nous avons cette affirmation de Paul, « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Il met cela dans l'épître de joie parce que c'est une des sources de sa joie. C'est que dans cette vie chrétienne qui est très difficile et exigeante, il regarde vers celui qui a une force infinie et qui est avec lui. Maintenant, réfléchissez avec moi juste une seconde sur une des exigences de ta vie chrétienne. Et demandez-vous, est-ce que habituellement je pense que j'ai une force suffisante en Christ pour faire face à ça? Être le sel et la lumière de la terre, de ce monde, porter un témoignage courageux en face d'un monde souvent adversaire à la foi chrétienne, vivre une vie sainte face à des tentations intérieures et extérieures, une vie sainte devant Dieu, une vie conséquente, une vie disciplinée, renoncer à moi-même, aimer les autres comme Christ même, aimer mes ennemis, s'approcher de Dieu de plus en plus avec une vraie vie de prière, être attaché à sa parole. Et vous pouvez encore ajouter plein de choses. Le rôle de la mère, le rôle du père, le rôle du citoyen chrétien, tout ce que nous pouvons donc citer. Et la question pour nous, c'est comment est-ce que nous regardons notre force en face de toutes ces choses? Pensons-nous que nous avons une force suffisante habituellement? Et c'est peut-être pour ça que dans la prière au début d'Éphésiens chapitre 1, une des trois requêtes de Paul, c'est que nous puissions avoir un esprit de connaissance et de révélation pour comprendre la puissance de Dieu envers ceux qui croient. La puissance de Dieu. Nous avons besoin de savoir que Dieu use d'une puissance envers nous et que nous pouvons puiser dans cette puissance de Christ pour tout ce qu'il appelle à faire. Hudson Taylor était un grand missionnaire en Chine, un des plus grands missionnaires des temps modernes. Et il a dit que toute œuvre de Dieu comprend trois phases. Au début, cette œuvre de Dieu est impossible, Dans la deuxième phase, l'œuvre de Dieu est difficile, et dans la troisième phase, elle est faite, elle est accomplie. Et il voyait son œuvre en Chine qui était complètement impossible à faire lorsqu'il a commencé de cette manière. Mais heureux ceux qui trouvent leur appui en toi. Charles Spurgeon, le grand prédicateur anglais du 19e siècle, a dit quelque chose comme ceci. N'importe non-croyant fait ce qu'il peut, mais le chrétien ne fait pas ce qu'il peut. Le chrétien fait ce qu'il ne peut pas. Il tente l'impossible et l'accomplit. Vous pouvez vous demander, mais comment est-ce que je peux vraiment vivre comme quelqu'un qui est heureux dans la force qui est la mienne en Christ? Je vais vous donner juste un petit astuce. Nous avons besoin, frères et sœurs, en face des choses qui sont exigeantes et difficiles, nous avons besoin plus, moi en premier, et vous aussi sans doute, de recourir à Christ, de le regarder dans les pages des évangiles et de nous rappeler toujours que peut-il faire. Parce que nous avons tendance à nous poser la question devant nos défis, qu'est-ce que je peux faire devant cela? Et nous avons besoin de dire que peut-il faire? Je vous donne juste un exemple très vivant. Voilà ce jour où il y a 5000 hommes, ainsi que beaucoup de femmes et d'enfants qui n'ont rien à manger. Il est tard, ils sont loin de tout village. Donc c'est une situation assez catastrophique. Et le Seigneur dit à ses disciples, donne-leur à manger. Et maintenant, ils sont confrontés à une chose qui dépasse infiniment leur capacité. Que faut-il faire? Alors, il y en a un qui dit, renvoie les seigneurs dans les villages pour qu'ils trouvent à manger. Ils ne veulent pas faire face à ce besoin qui semble impossible. Mais le Seigneur leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Et il les oblige donc à une démarche qui est surnaturelle, une démarche de foi. Et il dit, il y a ce petit garçon qui a un peu de nourriture, et il dit, donnez-le-moi. Et ensuite, en regardant au Seigneur, non pas qu'est-ce que nous pouvons faire devant la foule, mais que peut-il faire devant la foule, il y a la solution. Nous pouvons penser à ce jour où les disciples ne sont pas arrivés à chasser ce démon de ce garçon. La même chose. Et le Seigneur dit, homme de peu de foi, combien de temps est-ce que je dois encore vous supporter? Et il dit, amenez-le-moi. Amenez-le-moi. C'est-à-dire, la solution se trouve toujours dans sa force, dans ce qu'il est capable de faire. Donc, voilà la joie d'une force suffisante. Mais dans notre chemin chrétien, il y a une autre raison pour laquelle nous pouvons être heureux, et c'est la joie d'un plaisir attirant. Nous trouvons ça ensuite dans le passage dans le verset 6 et la deuxième phrase, je relis le verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Maintenant, remarquez bien que le psalmiste est en train de nous alerter de quelque chose, une réalité intérieure aux croyants. Ils trouvent dans leur cœur quelque chose, un état de cœur qui est pour eux une source de joie. Et il appelle ça des chemins tout tracés. Maintenant, il faut comprendre que pour aller au temple, les gens de partout dans le pays d'Israël devaient emprunter des chemins qui étaient surélevés. On les appelle, on les a aujourd'hui. En France, on les appelle les autoroutes. En anglais, on les appelle des chemins élevés, highway. Un chemin qui est high, c'est élevé. Mais à l'époque du peuple biblique, il y avait des chemins qui étaient surélevés pour permettre beaucoup de monde à y passer et pour permettre à ces chemins de ne pas se dégrader à cause de la pluie et d'autres facteurs. Et donc ces grands chemins larges surélevés Ésaïe en parle aussi dans sa prophétie, d'un chemin élevé qui sera appelé le chemin de la sainteté. Et donc, il est en train de dire que, de façon figurative, que les chemins qui mènent vers le temple sont en quelque sorte dans les cœurs des croyants qui y vont. Alors, c'est une façon de dire que te voilà, à ta conversion, tu as placé ton bonheur en Dieu, n'est-ce pas? C'est un peu ce que veut dire la conversion. C'est une des choses que la conversion signifie. Avant de connaître Christ, tu plaçais ton bonheur partout, n'est-ce pas? Dans beaucoup de choses dans le monde. Mais quand tu as découvert l'amour et la gloire et de Dieu et du Christ, tu as placé ton bonheur en lui pour le reste de ta vie. C'est en lui que tu trouves ton bonheur. Maintenant, dès que tu places ton bonheur en Dieu, tous les chemins qui mènent vers Dieu sont des chemins que tu aimes et tu trouves un délice dans ce chemin. C'est un peu ça que le psalmiste veut dire. Il trouve en leur cœur des chemins tout tracés. Le chemin pour aller au temple, c'est un chemin formidable parce que ça mène là où ma joie suprême se trouve. Et tout chemin qui mène vers Dieu, vers la présence de Dieu ultime ou vers la présence de Dieu que nous pouvons avoir dans ce monde, est un chemin tout tracé pour moi. Un chemin qui n'est pas simplement extérieur, ah oui, je dois aller là. Il est dans mon cœur. Mon cœur y est attaché. C'est très important pour nous de comprendre cela parce que c'est vraiment une des sources de la vie chrétienne. Le pasteur John Piper a passé presque tout son ministère à essayer de communiquer cette seule vérité aux chrétiens pendant cette génération. Il a écrit en 1985 ou 6 un livre qui s'appelle « Désirer Dieu » ou « Prendre plaisir en Dieu », je crois le titre en français. Et la thèse de ce livre, c'est que si on regarde les activités chrétiennes et le chemin chrétien seulement sous la rubrique du devoir, nous allons tomber dans le légalisme. Mais nous devons les voir comme des plaisirs, les chemins tout tracés, des chemins en lesquels nous avons beaucoup de bonheur. Et cela est une activité que le chrétien doit faire en activant sa foi. Quand tu pries, par exemple, pour être concret, est-ce que le matin tu dis « Ah oui, oui, je dois prier. » Un bon chrétien fait le culte personnel tous les matins, il faut que je prie. Tu fonctionnes uniquement selon la réalité du devoir, c'est ce que je devrais faire. Ou bien est-ce que tu actives ta foi en disant « La prière, c'est s'approcher de Dieu lui-même. » Le Dieu qui m'invite dans sa présence, qui a des choses magnifiques à me faire découvrir dans sa parole, qui écoute ma prière, et ça c'est mon privilège aujourd'hui. Et là, tu trouves des chemins tout tracés dans ton cœur pour prier. Voilà, le chrétien, son chemin est un chemin où ce que Dieu l'appelle à faire est un plaisir pour lui. Dernièrement, nous avons de la joie non seulement parce que nous avons une force suffisante et un plaisir attirant dans la vie chrétienne, mais aussi parce que nous portons des fruits signifiants. C'est vraiment très motivant pour moi et pour vous de savoir que notre vie devient quelque chose à cause du Christ. Notre vie ne valait plus rien. Ce que nous faisions n'avait aucun impact, aucune importance éternelle. Pense à ta vie en tant que chrétien. Tout ce que tu faisais, qu'est-ce que ça valait dès que le jugement dernier arrive? Ça valait rien. Parce que tes préoccupations étaient uniquement terrestres. Mais maintenant, tes préoccupations sont surtout éternelles. Tu penses à des choses qui ont une importance qui dépasse ce monde. N'est-ce pas? Et tu y travailles. Et c'est important pour nous de savoir qu'il y a un profond sens dans la vie chrétienne. Maintenant, où est-ce que nous voyons dans le texte ces fruits signifiants? Il y en a deux. Nous voyons, en lisant le texte, d'abord dans le verset 7, que nous avons le fruit d'une vie de thermostat et non pas de thermomètre. Regardez le verset 7. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Alors, il parle de ces pèlerins qui traversent certaines vallées arides. Il les appelle la vallée de Baca. Alors, les commentateurs nous disent que probablement, ils sont en train de parler de vallées où poussaient les baumiers. Donc, un arbre qui ne pousse que dans les lieux très arides, où c'était pas très gai de traverser là. Mais quand ces pèlerins y traversent, le texte nous dit, ils la transforment en un lieu plein de sources. C'est une manière figurative de dire que le croyant, quand il chemine vers Dieu, sur la route vers la présence finale de Dieu, il traverse des choses difficiles et arides. Mais qu'est-ce qui arrive? Est-ce que ce sont les difficultés de la vie qui le change, qui le déprime, qui le terrasse, ou bien est-ce que c'est lui qui change les situations dans lesquelles il passe et les personnes qu'il croise? Vous savez la différence entre le thermostat et le thermomètre. Le thermomètre est changé par la température ambiante. Elle descend et elle monte. Elle est complètement ballottée par la situation. Le thermostat, c'est lui qui change la température dans la chambre. C'est lui qui a l'effet sur l'environnement. Et ce texte est en train de dire exactement cela, que une des joies de la vie chrétienne, c'est lorsque nous traversons des vallées de Baca, des situations où il y a tristesse, où il y a difficulté, nous ne sommes pas obligés de subir simplement et d'être terrassés avec. Mais nous arrivons dans cette situation avec la présence du Christ lui-même. Maintenant, je ne veux pas être facile ou dire que c'est toujours avec un aise complet que nous avons un impact, une influence. Chers frères et sœurs, parfois on traverse des situations, on échoue. C'est la situation qui nous a terrassés. On n'a rien à apporter aux gens dans la situation. Mais le psaume nous dit que nous devons apprendre que nous ne sommes pas obligés de vivre comme cela, de plus en plus calmement et dans toute notre faiblesse, mais par la foi en Christ, par la vérité de l'Évangile que nous avons. Ce n'est pas nous, c'est ce que nous avons, cette vérité du Christ, cette sagesse de la parole de Dieu, cet espoir, cette foi, cet amour du Christ, fait que lorsque nous arrivons dans une situation qui pourrait être vraiment source de désespoir ou d'abondance, que nous pouvons véritablement impacter, influencer la situation pour complètement le changer. Je vous donne un petit exemple. Je connais très très bien un homme dans une église dans un autre pays. En fait, mon fils est nommé après lui. C'est un ami depuis plus de 20 ans. Donc, c'est un constructeur de maisons. Il avait une entreprise pendant des années qui était très prospère, il construisait beaucoup de maisons. À un moment donné, je me souviens, un jour, il m'a dit que son gain annuel était de 3 millions de dollars. Alors, dans la crise financière, la crise immobilière aux États-Unis, il a tout perdu. Tout. La seule chose qui lui est restée, c'était sa maison qui était déjà payée. Il a perdu l'entreprise, il a perdu ses plus de 70 employés. Il y a 2 ou 3 ans, quand je suis allé le voir, il avait un employé qui restait. Et d'un homme qui donnait 300 000 dollars aux œuvres chrétiennes chaque jour, chaque année, il est devenu quelqu'un qui était vraiment en grand besoin. Mais chaque fois que je le voyais pendant ces années de la crise, et même maintenant, je viens de lui parler récemment, je suis étonné de voir que, à travers tout cela, Il n'a jamais envie de parler de son état matériel. Il veut parler du Seigneur. Il veut parler de ce qu'il apprend. Il veut parler de des choses éternelles. Et en ce moment même, son église locale traverse une crise très très importante et pas mal de gens tournent vers qui ? Vers lui. L'homme qui a tout perdu sur le plan physique. Parce que lorsqu'il a traversé cette vallée de Baca, il l'a transformé en un lieu de source. Et ceux qui sont autour de lui m'ont dit que vraiment il est devenu de plus en plus un homme doux, un homme, cette crise lui a fait quelque chose de bien. Voilà ce que le psalmiste veut nous dire, et ça c'est la puissance du Seigneur souverain dans sa vie. Ça c'est l'effet du Christ dans sa vie. Eh bien, ça c'est le fruit donc d'une vie de thermostat et pas de thermomètre. Je vais juste dire en deux mots un autre fruit que nous voyons dans ce passage avant de conclure en regardant la dernière partie. Si vous regardez le verset 8, ce verset dit « Leur force augmente pendant la marche, ils se présentent devant Dieu à Sion. » C'est-à-dire, tous y arrivent. Il n'y en a pas qui sont laissés sur le chemin, qui n'arrivent pas à la destination finale. Leur force augmente pendant la journée, pendant la marche, et ils se présentent finalement, enfin, devant Dieu. Et il y a beaucoup de promesses dans la parole de Dieu que le croyant a ce privilège, s'il marche avec le Seigneur, non pas de dépérir au fil des années spirituellement, mais de croître et de voir sa force augmenter, son intimité, son humilité, bien sûr, sa vie de prière, son témoignage, tout cela. Et c'est vraiment une source de joie de savoir que nous pouvons vivre comme cela. Ok, maintenant, je termine avec la dernière section. Nous ne pouvons pas regarder en détail, mais juste cette question. D'où vient une telle vie et une telle manière de cheminer? Et c'est le troisième heureux qui nous donne le secret. Regardez bien. Et c'est surtout un verset que nous voulons voir. Ça commence avec cette prière au verset 9. « Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob, pose !» Il y a une pause là. C'est formidable qu'il y ait une pause là. La pause fait que certains pensent que ce verset appartient à la section du milieu, mais certainement pas. Ça appartient à la dernière section. Mais il y a une pause. Je me demande si c'est pas pour nous obliger à dire qu'est-ce qu'il va bien demander. Qu'est-ce qu'il va bien demander? Il n'a rien demandé. Il a parlé de cette destination et de ce cheminement, cette manière de cheminer. Et qu'est-ce qu'il va bien demander au Seigneur? D'où est-ce qu'il va tirer donc cette force pour marcher comme ça? Et voilà la prière un peu curieuse qu'il donne à Dieu. Il dit, toi qui es notre bouclier, vois ô Dieu et regarde la face de ton roi. C'est sa seule requête. Ton roi, c'est ton roi. Et il demande à Dieu de regarder la face du roi d'Israël. Il a besoin de ça plus que toute autre chose. Le peuple de Dieu entier a besoin de ça pour marcher sur ce chemin, pour arriver jusqu'à Dieu. Et nous pouvons nous demander bien pourquoi. Il faut comprendre que le roi en Israël est un médiateur. Il y a trois grandes fonctions dans le peuple, et trois sont les fonctions de médiateur. Il y a le sacrificateur, il est le médiateur entre Dieu et les hommes en ce qui concerne quoi? Leur péché. Il y a le prophète qui est le médiateur entre Dieu, qui est là, et le peuple dans le sens de leur ignorance. Et le prophète leur révèle de la part de Dieu sa vérité. Mais il y a un autre médiateur entre le grand roi éternel et son peuple. Il y a le roi d'Israël qui gouverne pour Dieu en tant que médiateur. Et que fait-il? Il protège, il est le bouclier, hein? Souvent, dans les psaumes et ailleurs, on appelle le roi d'Israël notre bouclier. Et il est donné par Dieu pour gouverner le peuple et pour protéger le peuple de leurs ennemis. Lorsque le roi marchait bien avec Dieu, Dieu lui donnait des victoires sur le champ de bataille, lorsqu'il était intime et fidèle avec Dieu. Mais lorsque le roi n'était pas fidèle avec Dieu, tout le peuple souffrait, chaque fois. C'était la catastrophe. Et tout le bien du peuple dépendait du roi et sa capacité d'être le protecteur du peuple. Et cela, à son tour, dépendait de sa justice. S'il était un homme juste, Dieu lui donnait les victoires. Nous pouvons maintenant comprendre pourquoi il demande à Dieu de regarder la face du roi. Si vous voulez, excusez-moi, je regarde juste un verset, le psaume 132 et le verset 10, ça va vous expliquer un peu mieux. Dans ce verset, il est dit que tes sacrificateurs soient revêtus de justice et que tes fidèles poussent des cris de joie. À cause de David, ton serviteur, ne repousse pas ton roi. Je ne sais pas ce que la version du Taube dit, Flavien, mais je crois que littéralement, ce verset dit « Ne repousse pas la face de ton roi ». C'est-à-dire que dans le psaume 84, quand le psalmiste dit « Regarde la face de ton roi », nous avons l'image du roi qui regarde vers Dieu et qui dit « Donne-moi la victoire en protégeant le peuple ». Et le peuple te dit « Regarde la face de ton roi qui est vers toi et qui te demande la victoire. Ne repousse pas la face de ton roi lorsqu'il vient vers toi pour la victoire. » Nous pouvons donc voir que le plaidoyer du psalmiste pour pouvoir marcher bien avec Dieu, ce n'est pas « Donne-moi directement ce qu'il faut », c'est « Regarde la face de mon médiateur ». Et pour nous aussi, notre argument pour vivre la vie chrétienne et recevoir la force n'est pas « Donne-moi directement ce qu'il me faut », parce que je ne mérite rien. Je ne peux jamais venir à Dieu directement pour quoi que ce soit. Le chrétien, le croyant, passe toujours par le médiateur, sinon il ne vit pas chrétiennement. Il dit, « Oh Dieu, regarde la face du Sauveur. Regarde son intercession. Regarde son sang. Regarde sa justice. Regarde celui qui me représente. Et à cause de lui et pour lui, donc protège ton peuple, sois notre bouclier. Et donne-nous donc ces bénédictions que nous trouvons dans le psaume. Regardez bien avec moi, on va juste lire cette dernière partie. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté, car l'Éternel est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne grâce et gloire à travers le médiateur. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Ça nous rappelle de Romains 8, n'est-ce pas? Si Dieu nous a donné le médiateur, Christ, comment est-ce qu'il peut ne pas nous donner toute autre chose avec lui? C'est ça cette vérité. Il nous donne toute chose en Christ et par Christ. Et notre argument, toujours notre manière de faire avec Dieu, c'est regarder la face de ton Messie. Parce que c'est lui qui est notre médiateur. Voilà pourquoi le psaume termine avec le verset 13. « Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi, mais ce qui se confie par le médiateur. » Si je devais vivre une vie de foi directement avec Dieu, ça ne marcherait jamais. Parce que je voudrais bien dire, « Je mets ma confiance en toi, donne-moi, mais je suis pécheur. Je suis indigne des bénédictions de Dieu. » Et c'est pourquoi je veux, comme le psaume dit, passer toujours par mon médiateur. Tu me l'as donné, Seigneur, tu m'as donné ce roi. Tu as fait de lui mon représentant. Tu as mis le Christ devant ta face dans le ciel, de sorte que maintenant tu as juré et tu ne reviendras pas qu'il est un sacrificateur et un roi pour toujours devant toi. Et Christ se présente devant Dieu perpétuellement pour nous et dit au Père, regarde ma face, regarde ma justice, tout est pour eux, donne-leur la bénédiction dont ils ont besoin. Heureux l'homme, donc, qui se confie dans Dieu par le Christ. Nous avons donc de quoi être heureux dans la vie chrétienne, la destination, le chemin nous donne des joies solides par une force suffisante et par ces fruits signifiants que nous pouvons porter. Et la vie de foi elle-même est posée sur Christ et non pas sur nous, n'est-ce pas? Ce qui fait un fondement complètement solide. Que nous puissions apprendre, chers frères et sœurs, à nous reposer sur Christ, à regarder que vraiment le lot qui nous est tombé est bon. Et que nous puissions être des chrétiens heureux à la gloire de Dieu. Nous allons chanter ensemble un chant pour répondre à Dieu, après quoi nous vous inviterons à prier.